Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis Luc Robben, porteur du projet Dédale. Je remercie au passage la péniche El Alamein pour son accueil. On est dans des lieux de culture un petit peu particuliers, en prise avec le projet. Ça vaut le coup d'en dire un ou deux mots, en fonction du contexte, en plus contemporain. C'est Voto qui est chargé de dire ces quelques petits mots. Puis après, on aura quelques paroles officielles pour lancer ce projet.
Quoi de mieux qu'un bateau pour s'immerger dans un projet comme celui de Dédale ? Bienvenue à vous tous, et même à ceux qui ne savent pas nager. Ce rafio El Alamein, créé par Geneviève Tuduri, est amarré depuis 1997. Ce bateau familial, on a vu passer ici-bas, sur ce plancher des vaches, en pleine flottaison, des pieds ont tapé des mains, et moult applaudissements ont affolé des bancs de poissons. À bord, l'équipe a rempli, écopé, dansé avec les sirènes, et trinqué avec le capitaine ad hoc. Sachons qu'une convention signée en 2013 imposait la diffusion d'au moins 80 concerts par an dans des lieux ouverts à tous et tournés vers le public pour l'attribution de cette convention qui spécifiait que si cette clause n'était pas respectée, la convention serait résiliée. El Alamein a su tenir le cap malgré le ressac et les vagues intempestives. L'année 2024 et la signature d'une nouvelle convention a amené à très exactement 56% d'augmentation en signant un futur dans lequel il est difficile de se projeter. Cette refonte des tarifs est pour le moins délirante. Si le bateau a été retenu suite à la remise en publicité de 2022, la nouvelle grille tarifaire nous fait comprendre la galère de cette situation. Malgré de longues discussions stériles pour essayer de faire comprendre l'aberration, le non-sens et l'impossibilité pour un lieu comme celui-ci de pouvoir continuer à accueillir des artistes émergents dans une salle de petite jauge, le bateau est resté ouvert à tous. La seule réponse perpétuellement retournée, la culture n'est pas rentable. Il a été également dit que le passé était le passé, qu'il n'avait pas moyen de vérifier les concerts. Pourtant, c'était plus facile à faire avec un autre établissement public, le CNM, qui perçoit une taxe parafiscale sur la billetterie. Il faut le savoir. Bref, le bateau n'a pas d'autre choix que de se tourner vers la privatisation pure et dure, ce qui est chaudement recommandé par les autorités portuaires, surtout quand on n'a pas d'investissement. Cependant, le bateau refuse de louer la salle à des artistes émergents. Le bateau continuera de lutter contre les tempêtes. Il continuera à être, comme il a toujours été, un lieu ouvert à tous, malgré son état financier à redresser. 27 ans, cela fait 27 ans, que l'équipe donne beaucoup d'elle-même. Cela fait 27 ans que ce bateau enchante par ses voyages à quai, dont vous allez vivre un ce soir.
Bien, merci Voto pour cette introduction. On est au cœur du sujet, hein, des lieux de culture, des lieux de création. Des marges aussi, des manières de faire autrement, et puis le défi, hein. Le défi qui est posé pour continuer, pour perdurer, pour créer et dynamiser le tissu culturel. Voilà, je vais donner la parole maintenant à Monsieur Fabrice Casadebé, conseiller culture auprès du secrétariat général pour l'investissement. Merci Fabrice pour cette prise de parole très officielle. Tu vas nous dire deux mots.
Merci Luc, merci à tous, merci Voto pour l'accueil. Félicitations aux organisateurs de nous avoir rappelé le sens de Dédale, hein, parce que c'était assez compliqué d'arriver à trouver la péniche au bout du quai, vu les indications. On a vécu un été olympique qui nous a rappelé, avec une cérémonie d'ouverture qui a, je crois, marqué tout le monde, le vrai pouvoir d'union que peut avoir la culture quand elle ne se confond pas avec le snobisme, quand elle est à l'écoute de toutes les sensibilités, de toutes les tendances, quand elle met aussi bien à l'honneur Ravel et jeux d'eau que Aya Nakamura, Debussy que Gojira, quand elle met les marges au cœur de l'expression de ce qu'est la France, le rayonnement culturel français, le patrimoine aussi d'une certaine manière. Donc je trouve que ce moment de parenthèse qui a été le nôtre et qui a produit cette interrogation sur qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que le lien, qu'est-ce que chacun a à dire dans ceux qui émettent les messages culturels, de ce que chacun reçoit dans ceux qui reçoivent les messages culturels, et du lien que ça fait dans une société. Alors je voudrais pas être trop long, j'aurais juste une métaphore olympique pour poursuivre l'activité. Je déclare officiellement ouverte la saison des dalles, et je vous remercie.
Merci, merci Fabrice. On va maintenant donner la parole à Monsieur Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles.
Merci Luc, je vais essayer de faire aussi bref que mon collègue et ami Fabrice. Voilà. Non, la dernière fois que j'étais ici, c'était toi qui étais sur cette scène, mais c'était dans une autre fonction. C'était pour un concert mémorable de The Yen qui était là et on avait pu découvrir. La péniche à l'AMN à ce moment-là. Non, simplement vous dire moi le plaisir que j'ai d'être ici, de retrouver Luc et Solveig et vous toutes et vous tous pour ce travail que vous avez, alors que nous lançons, mais que vous avez en réalité déjà initié depuis des années. 10 ans de réflexion sur le projet Pind, Punk is not dead. J'ai en souvenir nos premiers échanges. Lorsque vous étiez venu, quand j'étais dans mes fonctions antérieures DRAC en Occitanie, on avait pu accompagner le projet et c'est vraiment formidable de voir ce qu'il est devenu et ce que ça a permis de lancer sur ces questions à la fois évidemment liées aux pratiques, aux artistes, mais aussi sur ce que ça relève des évolutions de notre société. Et à ce titre-là, alors, je sais que vous parlez finalement d'aborder la question de fond sur ce qu'est la culture. Terme polysémique s'il en est, ce qui fait que moi je me réjouis d'ailleurs que, mon cher Fabrice, notre ministère est le ministère de la culture, mais nous-mêmes dans nos DRAC, nous sommes restés, comme l'avait voulu Malraux, des directions régionales des affaires culturelles. Ce qui nous permet évidemment d'avoir un spectre beaucoup plus large dans cette question et peut-être, comme tu l'as très bien dit, d'éviter ces questions de hiérarchie, même si dans le milieu qui est le nôtre, la reconnaissance par les pairs, PAIRS, évidemment celle qui nous intéresse au plus haut point, c'est ce qui a été lancé, je crois, un des axes de ce projet, un dédale que vous allez mettre en place. Et vous le mettez dans un moment aussi qui est un moment de profonde mutation. Mutation de notre époque qui se traduit dans toutes les sphères, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient aussi politiques. Et je pense que la traduction de ce que l'on connaît aujourd'hui est aussi un reflet de ces mutations extrêmement fortes, rapides, accélérées. Au moment où toutes les questions liées à l'intelligence artificielle remettent aussi au cœur des sujets la question des artistes, la question de la créativité, la question de la manière et même de tout simplement de la propriété. Et je crois que ce projet vient à point nommé. C'est un projet avec une équipe pluridisciplinaire, mon cher Luc, que tu as composé de manière extrêmement qualitative et que les travaux qui vont être menés par cette équipe nous intéressent au plus haut point. On remercie encore le travail qui a été fait avec les industries culturelles créatives, avec Fabrice et le secrétaire général, parce que ça permet aussi de donner des moyens, de donner une profondeur de champ, de durée au travail des chercheurs. Nous-mêmes, nous sommes dans une logique de quotidien qui est parfois empêche la réflexion. Et je crois que l'on puisse croiser à la fois le travail que vous allez mener, les réflexions avec les évolutions sociales et sociétales et les évolutions artistiques, évidemment, est un sujet qui intéresse la DRAC et de France au plus haut point. C'est tout simplement ce que je voulais dire cet après-midi en venant ici, en vous remerciant de nous avoir associés à ce travail. Merci beaucoup.
Merci Laurent. Eh bien maintenant, je vais donner la parole à Solveig Serre, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est la porteur du projet ICAR, qui chapeaute l'ensemble donc du projet ICAR, avec David Curjoli, qui s'excuse, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, mais nous pensons très fort à lui.
Voilà. À mon avis, c'est parce qu'il avait le mal de mer, il n'a pas osé venir.
Ça, le mal de mer.
Monsieur le conseiller culture au secrétariat général pour l'investissement, très cher Fabrice. Monsieur le directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France, très cher Laurent. Je ne sais pas où elle est. Madame la directrice adjointe scientifique du CNRS Sciences humaines et sociales, cher Pascal. Monsieur le professeur à l'Université de Bordeaux, mon très cher Luc. et est chère membre du programme de recherche ICAR qui est venu en nombre aujourd'hui. Chers intervenants, très chers collègues et amis qui êtes présents, je suis extrêmement heureuse d'être à vos côtés, alors en mon nom et en celui de David Cœur-Joly cet après-midi, à l'occasion du lancement du projet de recherche DEDAL consacré aux alternatives culturelles et créatives. Lancement qui représente l'aboutissement d'un long processus, à la fois scientifique et administratif, de presque 2 années, une véritable aventure collective co-construite par de nombreux acteurs scientifiques, professionnels et administratifs. Je remercie avant tout Marine du bateau Elana Mine pour nous accueillir dans cet endroit magnifique qu'on n'a pas choisi par hasard, parce qu'il incarnait l'esprit du projet. Merci comme toujours à Yassine Bellio et Marion Brizard, respectivement chef de programme et gestionnaire administrative et financière, ainsi qu'à Ira, médiatrice du projet DEDAL, qui œuvre depuis des semaines pour que cette journée ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Je salue également la toute jeune équipe de DEDAL, alors jeune en termes de recrutement, pas de sagesse évidemment, composée outre d'Ira de Pierre Génard, Mathilde Regnault, Maxime Guébet et Emmanuel Roux. Merci pour votre investissement dans l'organisation scientifique de cette journée de lancement et pour avoir surtout toujours veillé à sa bonne compatibilité à la fois avec les objectifs du projet et avec celles du programme ICAR. Merci enfin à Chloé Camboya, journaliste, qui a pris en charge l'animation de la journée au pied levé dans des délais assez courts, ce qui est une prouesse au regard de la densité du programme et du nombre d'intervenants. Je suis devant vous aujourd'hui à 2 titres. Tout d'abord, en tant que directrice du programme Industrie culturelle et créative, PEPR ICAR, auquel DEDAL, qui cherche à détecter et à imaginer de nouvelles ressources en marge, appartient, tout comme ses 5 autres compagnons de voyage, Harmonie, qui aborde les enjeux de la création à l'heure des technologies immersives et d'intelligence artificielle, TEMIS, qui veut repenser le chantier de la démocratisation culturelle et qui sera lancé à la scène de recherche de l'ENSAC la semaine prochaine, Praxi, qui enquête sur la culture et la créativité comme bien commun et comme vecteur de démocratie. Six, qui s'interroge sur les aspects économiques et sociaux des métavers. Et enfin, Comet, qui a pour vocation d'encourager les avancées scientifiques et technologiques des univers métaversiques. D'un point de vue plus personnel, je suis devant vous aujourd'hui également parce que DEDAL vient croiser mes propres intérêts personnels de recherche et plus, d'ailleurs que des intérêts, je dirais même des convictions, notamment celle que la recherche, et de manière plus large toute une société à travers elle, puisse reconnaître et accueillir les ressources aux marges. Pas forcément d'ailleurs pour les intégrer ou les absorber, mais tout bonnement pour ce qu'elles sont fondamentalement, des forces créatives, vives, porteuses de promesses pour des lendemains meilleurs. Alors je profite que ce soit le premier lancement d'un projet pour vous faire un aveu. J'ai imposé aux grandes dames de David Cœur-Joly qui trouvaient ça stupide et triste et sagesse que chaque projet porte le nom d'un demi-dieu de la mythologie. Mais ça, en fait, maintenant, je peux vous dire que c'est comme ça, j'étais assurée d'avoir toujours un truc à raconter quand je faisais les discours de lancement. Donc, plus sérieusement, le nom du projet DEDAL n'a pas été choisi par hasard. L'étymologie de DEDAL traduit l'ingéniosité et la dextérité qui caractérisent le personnage et qui, évidemment, c'est comme un gant, un Luc. Et je te soupçonne également, Luc, par ce nom, d'avoir rendu hommage à tes premiers amours de recherche. Toi, dans la thèse de doctorat, presque en même temps que DEDAL, a été consacrée à la conquête de l'air par l'homme. DEDAL, c'est l'Athénien Perdicard, l'architecte et l'inventeur qui fabriqua les ailes faites de plumes et de cire qu'il confia à son fils Icare pour s'échapper du labyrinthe, contribuant par là même à son destin funeste. Icare et DEDAL, liés par les liens du sang dans la mythologie comme dans le programme, par le drame de l'un causé par l'ingéniosité de l'autre. Alors évidemment, on souhaite une autre fin à Icare et que grâce aux ailes de DEDAL, il puisse voler sans brûler. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Chères toutes, chers tous, je voudrais commencer d'abord vous dire toute ma joie et tout le bonheur que j'ai à vous accueillir ici et à donc célébrer avec vous le lancement de ce projet, un projet qui me semble être très prometteur et nécessaire. Je commencerai tout simplement par des remerciements un petit peu comme au César, vous savez, parce que on réussit pas un projet de cette envergure tout seul, évidemment. Donc, il y a un certain nombre de personnes que je voudrais remercier pour m'avoir aidé, accompagné. Donc, Fabrice Casadebé, conseiller culture auprès du secrétariat général pour l'investissement. Solveig et David Coeur-Joly, directeur du programme ICAR, pour la confiance qu'ils ont placée en moi et en mon équipe pour porter ce projet, pour leur aide très, très concrète, pour leurs conseils. Voilà. Merci donc de m'avoir confié ce projet. Je voudrais remercier Michel Zingrini et les services de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche, qui ont œuvré efficacement dans le processus de contractualisation de ce projet de recherche. Le service partenariat et valorisation, le SPV, et en particulier Gladys Martial, que je connais bien depuis quelques années, parce que c'est avec elle que nous traitons chaque fois que nous avons un projet financé. On en a eu quelques-uns quand même, et donc on a besoin de ces services, de cet accompagnement très, très chaleureux, très efficace, très humain. Merci pour la disponibilité et l'aide permanente. Je voudrais remercier également Sonia, qui est responsable administrative de mon laboratoire à Tallinn et que j'ai souvent sollicité pour avancer sur ce projet, pour régler des problèmes concrets, matériels, ainsi que mes directeurs d'unité, alors anciennement Alain Schaffner et de manière très contemporaine Sarga Moussa, qui eux aussi m'ont fait confiance et m'ont accompagné dans ce travail de recherche. Je voudrais remercier Hyacinthe Belliot et Marion Brisa pour être des chefs au féminin, hein, des chefs d'orchestre administratives et financières particulièrement efficaces. Et puis, je voudrais remercier l'équipe que j'ai constituée avec Solveig, Ira, Ben Fato, Mathilde Régnier, Manuel Roux, Pierre Génard, Maxime Guébé, une équipe très efficace qui a déjà démarré sur les chapeaux de roue. Et puis, l'ensemble des collègues, enfin, professionnels, artistes, créateurs, qui ont déjà manifesté leur intérêt, leur soutien, leur souhait de s'engager sur cette voie d'une recherche innovante et prometteuse et nécessaire. Alors, puisqu'on parle d'une recherche innovante, je rappelle les principes de ce projet DEDAL, c'est porter un autre regard sur les ressources, sur les possibilités, sur la créativité. Le principe cardinal, comme c'est indiqué dans le petit résumé que vous avez sur le programme du projet DEDAL, c'est détecter, imaginer de nouvelles ressources aux marges, les marges entendues dans tout leur sens, pour accélérer les industries culturelles et créatives en valorisant des manières de faire autrement. Et on postule que ces alternatives sont un levier puissant, fondamental, de transformation donc de ces industries culturelles et créatives, tant du point de vue de leur fonctionnement, de leur dispositif ou de leur contenu, que du rapport à la culture. On parlait de la culture, évidemment, de ce qu'est la culture, la création ou le rapport au processus d'innovation, de production et de diffusion. Voilà. Ce projet, on l'a pas dit, mais n'est pas un projet refermé sur lui. C'est un projet qui va interférer, agir avec l'ensemble des secteurs portés par Solveig et les autres projets ciblés qui ont été évoqués tout à l'heure. Et je remercie les collègues d'ailleurs d'être présents, de me porter, de m'aider dans ce lancement. Ils sont tous venus voir comment ça se passait parce qu'ils vont bientôt avoir la même chose à faire. Donc la transversalité est au cœur de ce projet. L'axe fort du projet, c'est une science, une recherche qui se place au service des industries culturelles et créatives, et qui ne travaille pas sur, alors on travaille toujours sur, mais qui essaye de réfléchir à la manière d'appuyer, de développer, de permettre un épanouissement, un développement de ces industries culturelles. Donc on travaille pour. C'est la science avec et pour les ICC, la SAPIC. Voilà. On aime bien les sigles, surtout quand ils font un petit peu sourire. Et puis l'autre principe fort de ce projet, mais de l'ensemble des projets, c'est ce qui est au cœur, c'est la rencontre. Et vous le montrez bien ici, créer la rencontre, le dialogue entre les chercheurs, les artistes, les industriels, je mets des guillemets, parce qu'il y a toujours un petit peu quand même des problèmes. Quand les industries culturelles et créatives, ça suppose qu'il y a des industriels, que sont les artistes, les producteurs, etc. Bon, employons ce mot. Donc la rencontre est au cœur de ce travail. Travailler avec, évidemment, arriver à créer une culture commune aussi, c'est pas évident, hein. J'y reviendrai d'un mot, mais le chercheur a son univers, sa symbolique, sa culture professionnelle, l'artiste a la sienne, il faut arriver à créer la rencontre, et c'est pas si simple que ça de créer un langage commun. Ça fait partie des enjeux de ce projet. Alors, faire autrement, cela renvoie à des perspectives, évidemment, structurantes pour le projet. J'en vois au moins trois. Identifier de nouvelles ressources, j'y reviendrai, valoriser des manières de faire autrement, enlevant des verrous qui alors là, dans l'autre sens, marginalise ou qui freine les potentiels. Et puis, troisième point, accélérer sans déraper. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des enjeux fondamentaux, vous le savez, dans un monde aux ressources finies aujourd'hui. C'est-à-dire comment innover en pensant les impératifs de l'écologie, de la transition énergétique, de quelque chose qui soit soutenable et durable. Voilà. Alors, le premier point, des ressources aux marges. Faire autrement, valoriser les ressources aux marges. Solveig l'a un petit peu évoqué. Les marges sont créatrices. Quelles ressources pour l'avenir? C'est ça, la réflexion hein, que nous menons. L'histoire nous montre de quelle manière des alternatives ont été une ressource fondamentale pour le développement de la création, de la culture. On pense au Fanzina qui a généré de nouveaux acteurs dans le monde de la BD, par exemple, de nouvelles générations. On pense aux collectifs d'artistes comme Bazooka qui ont amené de nouvelles manières, de nouvelles esthétique, on pense à la manière avec laquelle la mode a été percutée par le punk, tu évoquais le punk tout à l'heure Laurent, on pense à Vivienne Westwood et tout ce que ça a pu générer derrière comme innovation, comme invention, on pense à la scène alternative et à ce qu'elle a pu générer comme artistes qui ont eu un développement tout à fait remarquable, Rita Mitsouko, les Négresses Vertes, Dao, etc. On pourrait penser au cirque qui a été revivifié aussi par le punk d'une certaine manière, Fura del Bauhaus, toutes ces troupes, Arcaos. Donc l'idée c'est de regarder aujourd'hui, où sont les ressources, comment les identifier, comment cartographier ces ressources et comment les accompagner. Le deuxième point, penser autrement le développement des ICC, c'est réfléchir à la manière de ne pas freiner. Accélérer, c'est arrêter de freiner peut-être. Quels sont les freins? On en a identifié quelques-uns qui vont être présentés, débattus. On aimerait avoir plus de temps, mais aujourd'hui on va essayer de lancer quelques débats. Quels sont les freins? Quels sont les verrous à lever? Par exemple, les verrous territoriaux. Regardez comment on peut arriver à désenclaver certaines régions qui ont des potentiels, mais qui, pour des raisons X ou Y, qu'il va falloir déterminer, et ce sera l'enjeu des débats et du travail d'enquête qui a déjà commencé. Je pense en particulier à la Corse, par exemple, sur laquelle on avait, dans nos enquêtes préliminaires, repéré cette idée que les acteurs nous disaient « on a un potentiel, mais on est en bout de chaîne, donc comment on fait ?» Deuxième verrou, je donne quelques exemples, des verrous liés à la place des hommes et des femmes dans le monde de la création. Alors, c'est pas une vue... Ça pourrait l'être, hein, politique, idéologique ou paritaire, mais c'est pragmatique. C'est-à-dire, on peut considérer que dans la création, quand même, assez largement, on marche sur une jambe, hein, plutôt masculine. Donc accélérer, c'est peut-être marcher sur deux jambes, hein, et redonner, et réfléchir à la manière de redonner de la place aux hommes et aux femmes dans la création, et imaginer d'autres regards, d'autres manières de créer, de placer la création au cœur de nos vies. Des verrous catégoriels... On a parlé de secteurs, ils sont identifiés, vous savez, le spectacle vivant, la musique, etc. Mais il y a des objets qui ne rentrent pas dans ces catégories. Alors, on en reparlera aussi. Il y a des objets même qui ne sont pas identifiés comme littéralement des objets culturels. On pourrait citer tout ce qui est culinaire, l'œnologie, mais aussi le luxe. La culture sportive, on en a débattu avec Sandra Loger. D'ailleurs, bravo pour ta chronique dans Le Monde, au passage, qui était superbe sur les Jeux Olympiques. Moi qui ai travaillé pendant 15 ans avec les STAPS sur les cultures sportives, je peux vous dire que le terme de culture sportive est vraiment un terme qui est employé. Or, bon, alors il y a un ministère de la Culture, un ministère des Sports, mais on se pose jamais la question. Aujourd'hui, regardez à travers les JO, les Jeux, cette culture, comment elle percute la mode, l'esthétique, le gaming, le quotidien en fait. Hein. Donc ce sont des objets comme ça auxquels il faut réfléchir et on réfléchit aussi à l'importance qu'ils ont dans nos vies et à ce qu'on pourrait projeter justement, tu parlais de CARE, hein, j'ai beaucoup apprécié ton travail, ce qu'on pourrait projeter aussi, et c'est l'autre projet de Sandra, Crise et Résilience, sur la place de la culture dans nos vies, donc, et j'en remets une couche sur le fait que ces projets, ils sont pas isolés les uns des autres, hein, ils s'interpénètrent, ils réagissent, ils résonnent, et on a déjà eu l'occasion de le voir. Il y a Olivier Haïm qui est là pour parler un petit peu des arts de vivre, et je le remercie de sa présence, parce que vraiment, je trouve que c'est un élément très important de ce projet. On parlera des verrous méthodologiques, la recherche-création. Qu'est-ce que c'est faire de la recherche quand on travaille sur la culture et qu'on a cette envie d'aller plus loin, de faire autrement, etc. Ben, c'est réfléchir aux vraies questions concrètes, la place des artistes dans la recherche, le statut qu'ils peuvent avoir, les projets de recherche-création, mais aussi des questions toutes bêtes. Hein. Comment on fait pour engager un artiste sur un projet financé? Comment on fait pour accéder à un artiste? Alors Solveig et moi, on peut vous en parler. pour avoir passé des heures à se geler devant les, pour essayer d'accéder à un artiste pour faire un entretien, puis vous le voyez jamais parce qu'il y a service d'ordre, etc., que vous n'êtes pas identifié comme une personne légitime pour travailler sur ou travailler avec ou travailler pour. Donc là, il y a des vraies questions très concrètes auxquelles il faut qu'on arrive à répondre. Et j'évoquais tout à l'heure aussi la question de nos cultures de chercheurs et d'artistes. Alors ça m'est soulevé hors d'elle quand on parle de la culture des artistes qui ont des exigences, etc. Je dis, mais c'est des artistes, c'est pas, ils sont pas chercheurs, donc ils pensent pas comme toi, ils ont pas les mêmes attentes, il faut qu'on arrive à aller vers eux et qu'eux viennent vers nous. Hein, alors ça, elle boue. Moi qui suis musicien, donc j'arrive à voir un petit peu, voilà. Donc ce chemin, il faut arriver à le faire. Travailler, avancer ensemble, c'est aussi arriver à s'apprivoiser les uns les autres. Et ce chemin-là, il faut qu'on arrive à le construire. Je vais en terminer sur le point, Lucie va en parler, sur la question évidemment des alternatives vertes. C'est-à-dire que, en fait, ce projet n'est pas pensable sans en permanence avoir, non pas seulement en arrière-plan, peut-être au premier plan, la question de savoir où on va sur cette planète. Désenclaver les territoires, ça ne vaut la peine que si on prend pas 50 fois l'avion, hein, pour donner un exemple très concret. Donc, l'IA dont on va parler, c'est-à-dire le choc technologique et l'impact qu'il a sur le tissu de la création de la culture, négatif ou positif, on va en débattre. Des personnes sont là, elles ont des expériences concrètes à partager avec nous. Mais en même temps, l'IA, c'est aussi peut-être des chocs énergétiques auxquels il faut penser, c'est peut-être des choses comme ça auxquelles on pense pas immédiatement, habitué que nous sommes dans nos conforts modernes, etc. Donc voilà, ce projet il est aussi là pour essayer de ne pas oublier que avancer c'est pas tomber dans le fossé, accélérer c'est pas déraper. Pour terminer, on va relire un petit peu le projet avec un texte un petit peu différent qu'on partage avec Solveig parce qu'on aime bien ça. Dédale, c'est quoi ? Dédale, c'est une manière de penser l'impensable et l'impensé, de lui donner droit de cité dans un monde qui a besoin de réfléchir autrement pour avancer.
Dédale, c'est l'envie d'observer, de détecter, de repérer et d'accompagner ce qui ne ressemble à rien de connu et qui pourtant prépare l'avenir.
Dédale, c'est une façon de bouleverser ses habitudes pour regarder ailleurs, pour regarder autrement, pour montrer comment il arrive que l'on fasse autrement, que l'on crée autrement et comment cet autrement peut devenir une force inaliénable dans nos manières d'imaginer la culture et de bâtir les dispositifs qui la porteront et la projetteront dans nos vies.
Dédale, c'est une alternative scientifique pour penser des alternatives culturelles et créatives au service de toutes et de tous. C'est une réflexion qui cherche à tordre les idées reçues, ces idées toutes faites qui limitent l'espace des possibles, en préconisant le recours aux standards, aux normes du marché, à ce qui a fait ses preuves et à l'establishment culturel.
Dédale, c'est l'amour de la marge, non pour ce qu'elle pourrait représenter idéologiquement ou sociopolitiquement, mais bien pour ce qu'elle permet d'inventer en toute liberté, pour ce qu'elle permet d'imaginer sans limite, de créer sans contrainte.
Dédale, c'est l'attention portée à ce qui est marginalisé, non pour se réjouir d'observer un objet sociologique singulier, mais bien pour réfléchir à la manière de lever les verrous qui entravent le désir et les moyens de créer.
Dédale, c'est un projet qui forge des outils pour abattre des obstacles et tracer de nouveaux horizons en matière d'espace, d'air et de territoire des créations, pour imaginer de nouveaux futurs, pour de nouvelles technologies et de nouveaux mondes soutenables, pour penser des réseaux contributifs et des dispositifs créatifs et spectaculaires singuliers.
Dédale, c'est la promesse de réflexion sur les genres de la création, tant le genre unique freine les apports de l'imagination et de l'intelligence créative. C'est la possibilité de déconstruire, l'espace d'un instant, des catégories qui, par trop, enferment les biens culturels dans des descriptions et des secteurs hermétiques.
Dédale, c'est une manière de penser les arts de vivre et de respirer, d'explorer les limbes de nos imaginaires en goûtant aux fruits étranges de nouvelles combinaisons culturelles, événementielles, esthétiques, artistiques, alliant tradition et modernité, luxe et simplicité, DIY et technologie de pointe, mobilité et éco-responsabilité.
Dédale, c'est surtout une équipe enthousiaste qui entend renverser la table et porter ce programme novateur sur le monde de création et de la culture. Un collectif de chercheurs et de professionnels qui portera un autre message, un autre regard sur une autre culture, sur d'autres développements culturels et d'autres avenirs prometteurs.
Un réenchantement scientifique du quotidien de la création et de ses industries. Voilà, je vous remercie. Le projet est lancé.